Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse vulnérabilité qui impacte Bash. Donc avec moi pour traiter de ce sujet, nous avons les deux Nico de Nos Limites Sécu. Donc Nico.
Salut.
Et Nico.
Salut.
Nous avons également Jeff.
Hello.
Et donc Johan. Donc ce que nous verrons au cours de ce podcast, nous verrons donc ce qu'est Bash très brièvement, nous verrons le principe d'exploitation de cette vulnérabilité, nous verrons également quel est son impact, la criticité et éventuellement s'il y a des moyens de limiter l'exploitation, de limiter les risques de cette exploitation de vulnérabilité. Donc pour commencer, Nico, je te propose de nous expliquer brièvement ce qu'est Bash.
Alors Bash, c'est le Born Again Shell, et donc c'est un shell, donc un interpréteur de commande en langage Académie française. Et pour les utilisateurs, enfin pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de Linux, c'est la même chose que le command com sous MS-DOS ou le cmd.exe sous Windows. C'est le truc qui te permet d'envoyer des commandes à ton système. Donc en gros, c'est le programme sur lequel tu te retrouves à chaque fois que tu essaies de lancer une commande.
D'accord. Alors, quel est le principe en fait de l'exploitation de cette vulnérabilité ?
C'est une vulnérabilité qui n'est intéressante que parce qu'elle est accessible du réseau. Alors, en pratique, comment ça marche ? Quand on a des services réseau qui s'exécutent, ces services réseau-là reçoivent des informations qui viennent du réseau. Donc, le client, en gros, envoie les trucs au serveur. Et dans le cas de certains services, ce qu'on a, c'est que le serveur récupère ces informations et puis, avec ces informations-là, il exécute des trucs dans Bash, en fait. Il fait un truc en ligne de commande, comme si quelqu'un tapait avec ses doigts des LS, des choses comme ça. Mais c'est le service qui a automatiquement lancé un Bash. Donc bon, en gros, l'idée, c'est qu'on va pouvoir injecter une commande complémentaire, pas prévue par le programme serveur, pour faire exécuter au serveur des choses qu'on voulait pas. Alors, le problème, c'est que juste encore une petite chose sur comment ça fonctionne, et notamment, on va parler rapidement des services web. Parmi toutes les technos qu'il y a, il y a des vieilles technos notamment qui sont les technologies CGI. Et les technologies CGI, en fait, ce que ça faisait, c'est que le serveur récupère les paramètres et il va exécuter le programme et en différents langages de programmation et parfois notamment en Bash. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que les paramètres reçus par Bash sont transmis depuis le client vers le serveur et du serveur à Bash. Le client les envoie sur le réseau, le serveur les récupère, et pour pouvoir passer ça à Bash, on va utiliser ce qu'on appelle des variables d'environnement. Les variables d'environnement, c'est des variables qui sont dans Bash, et donc c'est des variables statiques. Par exemple, une variable d'environnement classique, c'est quelque chose qui va définir qu'est-ce que c'est l'encodage qui est utilisé dans le terminal. Ce qui est plus amusant, c'est que dans Bash, on peut passer des fonctions comme étant des variables d'environnement. Je peux dire, cette fonction-là, elle existe, maintenant je peux l'utiliser dans Bash, et c'est là, en fait, que réside la faille. En fait, il va recevoir la fonction, et puis si jamais après, il y a encore du code Bash, enfin du script Bash qui est derrière, il va l'exécuter. Ce qui veut dire que n'importe qui est capable d'envoyer un paramètre d'environnement via le réseau qui ressemble à une fonction, va pouvoir derrière exécuter le code de manière arbitraire, et ce sera interprété par la ligne de commande. Donc il va pouvoir exécuter du code Bash avec les privilèges du service. En gros, je sais pas si j'ai expliqué.
Je pense que tu as perdu tout le monde. C'est totalement exact ce que tu as raconté. Mais...
Okay. Si j'essaye de la faire courte, normalement, un script Bash prend en entrée des paramètres et pas du code. Et il prend en entrée de ces paramètres via des variables d'environnement, notamment dans tout ce qui est script CGI. Et là, en fait, la faille, c'est que tu es capable de passer une commande, donc de décider du fonctionnement du programme via ces paramètres d'environnement. Et là, elle est la faille.
Effectivement, on connaît le problème des injections de commandes depuis longtemps, c'est-à-dire que tu as un site où, par exemple, Cisco a eu ce problème-là dans les contrôleurs Wi-Fi. En gros, tu tapes ton nom d'utilisateur, sauf que ton nom d'utilisateur, après, il le passe en ligne de commande à un script pour vérifier que ton nom d'utilisateur et ton mot de passe sont bons. Et donc, si par hasard, ton nom d'utilisateur contient un point-virgule, du coup, la commande qui est derrière, elle va être exécutée sur la ligne de commande avec le reste. Donc ça, c'est un problème qui est relativement connu en informatique et qui est relativement bien traité. Tu peux écrire des filtres pour lutter contre ce genre de problème. Mais là, le problème, c'est que effectivement, en fait, ce que tu pensais être des chaînes de caractères, des données inertes, comme ton nom d'utilisateur, ton nom d'hôte, ton type de prompt, la couleur de ton terminal, enfin peu importe tout ce qu'il y a dans les variables d'environnement, en fait, on se rend compte que si tu mets une fonction bash à cet endroit-là, elle est exécutée. Et en fait, le problème dans cette faille, c'est que aujourd'hui, absolument personne n'est capable de faire une liste exhaustive des applications qui sont vulnérables à cette faille. Donc là, j'ai vu sur Internet tout à l'heure que le serveur, enfin que DHCPD était vulnérable. Apache, enfin quand tu utilises des scripts CGI en bash, tu es probablement vulnérable parce que Apache passe un certain nombre de choses dans les variables d'environnement. Jeff disait tout à l'heure que SNMP, enfin le démon SNMP.
Les clients SNMP, en fait, quand ils reçoivent leurs paramètres, ils lancent un bash pour configurer l'interface réseau sur la base des paramètres reçus du serveur DHCP.
Ouais, mais c'est pareil justement avec DHCPD. Donc globalement, n'importe quelle application aujourd'hui qui lance une commande, Git aussi, on citait Git, Git est potentiellement vulnérable.
Et SSH.
Et SSH, quand en fait tu veux faire tourner SSH en mode restreint et donner accès à un certain nombre de commandes, enfin une whitelist de commandes, potentiellement aujourd'hui toutes ces applications sont vulnérables et probablement plein d'autres. Parce qu'à partir du moment où l'utilisateur peut spécifier un paramètre que tu pensais inerte et que donc tu filtres pas, et qu'en fait ce paramètre c'est une fonction bash, alors elle est exécutée sur la cible. Et ça va vraiment être, pour la remédiation et la détection des tentatives d'exploitation, c'est vraiment la misère.
Et puis aussi, je trouve que ce qui est un peu la misère, c'est que c'est extrêmement facile à exploiter, quoi. T'as pas besoin, c'est une pauvre ligne de commande de quelques caractères, il n'y a pas d'hexadécimal, il n'y a pas de compilateur à avoir. D'aller récupérer le bout de shellcode sur un truc à droite à gauche. Là, c'est d'une facilité enfantine de tester ce type d'attaque, quoi. Et de lancer une attaque à destination d'un serveur. Et ça aussi, ça c'est, tu te dis, waouh, le premier venu est capable d'attaquer mon serveur. Et oui. Et qu'est-ce que ça veut dire attaquer un serveur web vulnérable? Ça veut dire faire tourner n'importe quelle commande sous l'identité du serveur web, hein, donc typiquement le wawawa data, sous les Linux et consorts. Et ça peut dire tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Tu peux copier tous les fichiers de configuration, tous les fichiers qui traînent sous le serveur web, tu peux modifier des fichiers, donc c'est super pour tu veux faire un défacement de site web, ouais. Tu te fais plaisir. Tu peux installer, du code JavaScript ou des kits d'exploit si tu veux infecter des gens qui se baladeront, qui viendront consulter après le site web. Tu peux lancer aussi des attaques en déni de service, hein, parce que tu as une ligne de commande. Donc, pense que ça peut avoir quand même pas mal de conséquences assez importantes. Hein.
Là, tu reviens à un problème classique qui est celui de l'attaque du serveur web. Imagine, tu as une faille dans une appli PHP, du coup, tu peux prendre la main sur le serveur et là, on sait tout ce qu'il est possible de faire. Le problème, c'est que si tu as une faille dans une appli PHP, tu sais la corriger. Par contre, là, sur ton serveur web, tu sais pas établir de manière certaine la liste de tous les scripts et les pages et les applications qui vont être vulnérables à cette attaque.
Ouais, mais ils ont sorti le... Alors, j'ai lu des trucs sur... Il y a un patch. Il y a des patchs qui sont sortis ou pas pour Bash. Mais alors... j'ai lu des trucs, il y avait des patchs qui n'étaient pas fiables. Et ça a été, il y a des mecs qui ont patché leur truc et leur système, et puis ils se sont retrouvés en fait, la correction n'est pas aussi simple que ça. Parce que grosso modo, si tu patches ton bash, automatiquement, mécaniquement, toutes tes applications, tous tes scripts CGI bin sont de facto protégés de l'injection.
Alors, avant qu'on parle de remédiation, de détection, etc., est-ce qu'on peut terminer juste sur la partie impact et criticité?
Quand on parle de serveur web aussi, on imagine toujours les serveurs web classiques tels qu'on les voit, mais le seul problème, c'est que les serveurs web, souvent, il y en a partout, et particulièrement dans les petits équipements qui nous entourent en permanence. Je pense aux box, je pense à des choses comme ça, c'est des choses qui ont peu de ressources, et souvent, c'est des serveurs web qui sont relativement simples, et puis qu'est-ce qu'ils ont en dessous? En fait, ils ont un petit shell, et le petit shell, parfois, c'est bash. Donc, ça veut dire que éventuellement tous ces appareils-là, enfin, toutes les appliances, entre guillemets, qui sont commandables par un serveur web, comme souvent derrière ce qu'elles font, c'est exécuter un bash, et ben elles sont probablement vulnérables. Et comme en plus, ben, les patchs de ces choses-là sont relativement peu fréquents, et souvent vraiment à la volonté de l'utilisateur précisément, je pense qu'on va se retrouver avec plein de plugins qui en fait sont extrêmement vulnérables. Et ça, c'est un vrai problème. Tout ce qui est un peu historique, donc, enfin, il y a des serveurs web qui tournent en CGI, il y en a encore quelques-uns. C'est les fameux trucs où faut surtout pas qu'on les touche parce que s'ils s'arrêtent pendant 5 secondes, c'est la fin du monde. Et pour autant, ces trucs-là fonctionnent avec des vieilles technologies, donc probablement du CGI. Ou, et ce que je trouve encore plus gênant aussi sur ce truc-là, c'est qu'on parle de serveurs web. Mais si on regarde, par exemple, SSH, s'il y avait un logiciel auquel j'étais censé faire plus ou moins confiance, malgré un historique parfois compliqué, c'était SSH. Et SSH aujourd'hui, bah, et alors ce que je fais, c'est qu'en plus, je fais un effort particulier, par exemple, pour que les gens ne puissent s'en servir que en SFTP. Et bah, parce que j'ai fait ça, en fait, je suis deux fois plus vulnérable que les autres. Bah, franchement, ça me fait un peu mal au crâne. Donc ça, c'est vraiment chiant, en fait. Parce que même en mettant en place les bonnes pratiques, et bah, parce qu'on utilise un truc donc, dont la faille existe depuis 22 ans, c'est ça. La faille existe depuis 22 ans, et moi, je fais bien mes devoirs de maison, et en fait, et bah, je me retrouve plombé. C'est très perturbant, en fait. En termes de confiance, c'est très perturbant. Un dernier point, c'est qu'effectivement, en bon geek, en fait, j'ai toujours pour considérer qu'avec un serveur X, avec un serveur vidéo, effectivement, c'est du code compliqué, c'était des trucs qui étaient super chiants. Et donc, pour sécuriser ça, c'était difficile parce qu'on agrandissait la surface d'attaque. Donc, la règle d'or, c'est un shell et puis c'est tout. Un shell un peu confortable comme Bash, par exemple. Ben non, maintenant, en fait, Bash, il y a une faille depuis 22 ans. Au passage, le fait qu'elle soit devenue publique aujourd'hui, c'est une chose. Le fait qu'elle ait existé précédemment, peut-être, enfin qu'elle ait été utilisée précédemment, en est une autre.
Donc c'est une faille extrêmement grave, puisque elle est relativement facile à exploiter. Elle impacte un très très grand nombre de systèmes. Mm-hmm. Et l'impact est très très fort, puisque c'est de l'injection de commandes. Et donc, quand on injecte des commandes, en gros, on fait ce qu'on veut, quoi.
Dans avec la limite du processus. Service. Ouais, dans la limite de ce qu'est le processus. Ouais. Merci, Nico.
Oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé du nom de la faille, mais la faille, a priori, s'appelle Shell Shock.
Ouais.
C'est ça, le mot-clé.
Mais il n'y a pas de beau logo. Hein. Vous avez vu des beaux logos comme pour World League ? Moi, j'en ai pas.
Non, il n'y a pas de beau logo. Mais c'est vrai que le terme de Shell Shock est excellent parce que, en fait, si je me gourre, c'est quand les gens reviennent de la guerre et qu'ils sont traumatisés par la guerre, ils ont un Shell Shock. Donc voilà, quoi, c'est la faille qui traumatise. Et,
Elle est d'autant plus traumatisante qu'à la limite, elle est plus grave que Heartbleed, parce que Heartbleed impactait la confidentialité des données. Là, en fait, cette vulnérabilité impacte tout. Là, la confidentialité, tu peux nuire, faire du déni de service, l'intégrité des données. Enfin, c'est la totale, quoi.
Ouais, mais ça, c'est des comparaisons à la con. Moi, c'est comme demander à quelqu'un s'il préfère sa jambe droite ou son bras droit. Quoi.
Pourquoi tu dis que c'est pas comparable?
Non, mais j'ai essayé de faire une comparaison entre les deux. Ça sent tout de suite le risk manager qui va mettre un chiffre dans un tableau Excel parce qu'il a le budget pour patcher une seule faille cette année, donc il va devoir choisir entre Heartbleed et
exactement. Si t'as le choix.
Ouais, mais son jeton, il est déjà cramé là, normalement.
Bah oui, voilà. Ouais. Bah, si quelqu'un vient me voir en me disant t'as le choix. Je lui dis, moi, je me casse. Enfin, je veux dire, vous faites pas de la sécurité.
Ouais, mais c'est vrai que ces deux-là sont importantes, en fait. Vraiment, et pour des raisons complètement différentes. Mais après, bon, visiblement, peut-être que tous les patchs sont pas super. Enfin, ça, j'ai pas vu cette info-là. Mais bon, globalement, l'embargo a été pas mal fait. Parce qu'on va pas tarder à parler de la remédiation. Mais juste avant, peut-être parlons justement de la manière dont l'info a été gardée. Bon, moi, j'ai pas mes secrets dans les sources obscures, mais... Le truc a été visiblement pas mal géré au moment où ils ont sorti, l'info. Donc c'était 20h heure française si je ne m'abuse hier soir. L'info s'est diffusée relativement rapidement. Moi j'ai vu avec plaisir finalement que ce matin, enfin dans les réseaux universitaires, ça s'agitait beaucoup, ça trouvait le moyen, ça cherchait à comprendre. Et derrière les patchs sont disponibles en fait. Voilà, on peut faire un APT, un YUM, hein, ce que vous voulez, mais globalement ça a l'air d'avoir plutôt pas mal marché. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant de ce côté-là.
Ouais, tu trouves que l'admin réseau qui était dans le RER hier soir à 20h et qui a vu sur Twitter qu'il y avait un patch critique à appliquer et que s'il attendait la nuit, ses serveurs seraient défoncés?
J'espère pour lui, mais pour deux raisons, qu'il n'avait pas un SSH confiné, quoi. C'est tout ce que je peux dire, mais... Bah, je sais pas, mais effectivement, de toute façon, là, c'est toujours pareil. C'est à partir du moment où, enfin, on est. Alors, tu parlais de risk management tout à l'heure, mais là, on est aussi dans le damage control, c'est-à-dire que, bah, voilà, j'ai un serveur vulnérable. Je vais faire ce que je peux pour déployer mes patchs le plus vite possible. Effectivement, si jamais il est en, à la, alors, dans le RER encore, on peut regarder Twitter. À l'apéro, on peut imaginer qu'on regarde pas Twitter. Et là, par contre, ouais, c'est pas bon. Verdict, si vous êtes admin système, faut qu'il y en ait un qui prenne pas à l'apéro, quoi. Mais,
Ça semble un bon takeaway pour les auditeurs.
Eh ben, c'est ça. Voilà. Avec plaisir. C'est, voilà.
Allez, si on parlait de détection, de remédiation,
en patch.
Déjà patch. En patch.
Non, ouais, non, tu patches pas parce que les gens sont pas d'accord sur le patch, si j'ai bien compris. Le mainteneur officiel propose un patch, mais qui en fait est à minima, c'est-à-dire en gros une recherche de caractère. Parce que le code d'exploitation, hein, pour faire simple, c'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade ouvrante, accolade fermante. Et entre les accolades, tu mets les commandes que tu veux. Donc lui, il propose une recherche de motifs là-dessus. Visiblement, ça suffit pas. Donc, si j'ai bien compris, Red Hat allait proposer un patch différent. Et bon, enfin, aujourd'hui, je suis pas sûr que les patchs poussés dans les distros soient efficaces à 100% contre l'attaque. Après, il y a des patchs alternatifs qui existent. Mais si t'as un vieux barbu du bash qui s'est fait des scripts de malade que personne n'a touché depuis 20 ans, potentiellement, le patch va casser son script.
Ah, pour revenir sur le sujet détection, si on parle uniquement d'un serveur web et d'un script CGI-VIN, en fait, tu peux injecter les commandes de ce que j'ai lu dans quasiment toutes les entêtes HTTP, donc cookies, le hostname, pour ne prendre que cela, et puis tu peux aussi les passer directement dans le corps de la requête, au niveau de quand tu fais du post. Et donc ça veut dire que grosso modo, j'ai pas en mémoire la configuration standard de génération de log d'un serveur Apache. Je suis pas convaincu que en standard il log tous les entêtes débarquent au niveau HTTP.
Je confirme que non. C'est sûr que non, il log pas les cookies par exemple.
Bah voilà, donc grosso modo, t'as peu de chance si t'as quelqu'un qui est un peu habile et qui envoie ça dans le cookie, tu vois rien passer. Donc, de façon native, sans une reconfiguration spécifique. La seule chance, c'est si tu as un fou furieux qui log beaucoup de choses au niveau de son serveur Apache, alors il aura peut-être la possibilité de le faire. Et ça pourrait être ça, peut-être qu'on pourrait recommander à faire à certains admins un peu soucieux de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est d'augmenter le système, le niveau de log au niveau de leur serveur web. Et encore, ça peut être, on peut le contourner. Ou alors, et après, ceux qui sont fous furieux, mais dommage qu'on n'ait pas notre ami Renaud avec nous, peut-être que les fous furieux du mode security, il y a peut-être des choses à faire. Mais encore une fois, je rejoins Nico, on fait quoi ? Une recherche de pattern sur l'attaque ? La problématique de détection sera la même que la problématique, voire pire, que celle d'apporter une correction, quoi.
Alors, Jeff, je te confirme qu'effectivement, sur un serveur web classique, tu n'as aucun moyen de loguer les headers. Même en mode debug, tes headers, ils sont pas logués. Il faut soit des modules supplémentaires de type, par exemple, mode security pour pouvoir le faire. Et je te confirme également qu'il est possible de détecter dans une certaine mesure cette attaque, puisque en fait, comme le disait Nicolas, pour que l'injection soit possible, il faut une certaine pattern, et il est possible de tenter de détecter cette pattern sur le réseau. Donc les IPS, les WAF, les HIPS vont pouvoir aider à limiter le risque de cette attaque. Alors encore une fois, avec certaines limites, puisqu'on sait que c'est de la pattern et donc c'est y a de l'évasion possible, mais je pense que ça permettra quand même de limiter l'impact et surtout l'exploitation de cette vulnérabilité dans un grand nombre de cas.
Après, au niveau des entêtes HTTP, normalement, quand tu as un en-tête header, référeur, host, oui, cookie, normalement le format, tu dois pouvoir travailler en mode positif parce que tu connais le format des cookies que tu utilises. Tu connais la tête la valeur qu'il y a dans un en-tête référeur, elle doit être normalement assez classique et pas contenir des trucs avec des parenthèses ouvrantes, des parenthèses fermantes ou des accolades et compagnie. Dans un en-tête référeur, c'est un peu bizarre.
Oui, je m'aperçois d'ailleurs que j'ai dit des bêtises. Hein. Il y a un grand nombre de headers HTTP qui sont logués par les serveurs web. Mmh. Je pensais en fait aux données postées.
Ouais. Oui, ça, données postées, il te faut un mode security ou autre truc du même acabit. Je suis en phase.
Non, mais attends, si tu logs tout, tu as un problème de privacy. Hein, parce que si tu logs les cookies ou si tu logs le contenu des posts, tu récupères tous les logins des utilisateurs en clair. Donc,
Le
mot de passe en clair. Donc, je pense que si tu t'amuses à tout loguer et à tout laisser en local sur le serveur dans une base SQL, tu auras plus de problèmes à long terme que...
Oui, c'est que mesure temporaire. Hmm. Ouais. Donc, non, détection, il y a des choses qui sont possibles, mais bon, on se retrouve aussi... Enfin, là...
Après, oui, tu peux détecter sans loguer. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé forcément... Ou loguer uniquement quand tu détectes.
Oui, tu peux. Mais à la limite, aujourd'hui, si tu as une demi-heure à tuer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer le patch ou tu vas écrire une regexp dans ton module de sécurité pour détecter effacer l'éternel problème, quoi.
Ah ben non, tu vas patcher sans hésitation. Simplement, parfois, tu ne vas pas avoir la possibilité de patcher.
Bah, ouais. Derrière aussi, par contre, il y a toutes les mesures a priori. Évidemment, la situation n'est jamais idéale, mais ce qu'on peut avoir espéré, c'est qu'effectivement, le serveur web ou autre chose qui s'exécute, il ne s'exécute pas directement, enfin il ne va pas lancer le bash en mode root. On peut l'espérer, ce ne sera pas toujours le cas, clairement, bah, notamment plus c'est une vieille application, notamment parce qu'elle utilise du CGI. À partir de là, on a un risque non nul, effectivement, qu'elle s'exécute avec des permissions plus élevées que nécessaire. L'autre aspect aussi, c'est que sinon on peut tenter de confiner le serveur web par différentes manières. Finalement, faire un shroot là-dessus, c'est pas mal. Parce que déjà, si on shroot, ça évite d'accéder à certaines choses. Mmh. Ça peut être un bon début, je pense aussi. Mais ça, c'est des bonnes pratiques qui sont censées avoir été mises en place a priori, ce qu'on peut espérer.
Ouais, mais ça n'existe pas. Enfin, bref, je dis pas que les gens le font pas, mais ils le font parce qu'on les oblige et du coup, ils pervertissent l'essence du système. Moi, je peux dire que j'ai audité un paquet de systèmes où les gars... typiquement, prenons le cas des portails Wi-Fi, puisqu'il y en a un qui vient de se faire défoncer, là, c'est Alcazar. En gros, ils ont tout bien fait, alors le truc il tourne pas en route, machin. Le problème, c'est quand tu as un portail Wi-Fi, t'as besoin de donner accès à tes utilisateurs et autres, donc il faut qu'ils reconfigurent IP table à la volée, et ça tu peux le faire qu'en route. Donc en gros, le process il tourne pas route, par contre il peut faire sudo de n'importe quoi quasiment. Et à partir de là, sudo sans mot de passe, bien sûr, puisque c'est un serveur web qui tourne, donc il n'y a pas tapé un mot de passe à chaque fois. Et à partir du moment où, et ça c'est un cas que j'ai vu dans plein de box, plein de portails captifs et autres. À partir du moment où tu as un process qui tourne par route ou qui s'est achrouté, mais qui peut faire sudo n'importe quoi, c'est retour à la case départ, quoi.
Ouais.
Et puis, bon. OK, tous ces trucs... je suis d'accord qu'il faut avoir plusieurs niveaux de défense en profondeur, mais faut que ce soit fait correctement. Ouais. Et en particulier, tu parlais du cas de tous les systèmes embarqués et autres. Déjà, peut-être des systèmes qui comptent sur la détection, ça marche pas. Parce que dans un système embarqué, tu auras beau générer des logs ou envoyer des mails, je sais même pas si tu peux envoyer des mails d'ailleurs, en disant attention, il se passe un truc bizarre, t'as pas de sysadmin derrière, quoi. Le problème, c'est que tous les systèmes qui doivent prendre des décisions de manière complètement autonome. Genre, est-ce que je laisse passer ou est-ce que je bloque, quoi. Et là, j'en ai pas vu beaucoup qui étaient correctement faits, quoi.
Ouais, et dans la théorie, les trucs de type SE Linux ou ça doit permettre de, je suis pas expert dans le domaine, mais ça doit permettre de dire le serveur Apache, il a peut-être pas besoin, il a pas le droit de lancer du ping. Ouais. On peut lui donner un certain nombre de commandes ou de comportements.
Ouais. SE Linux, c'est comme le dropping de, avoir des services qui tournent pas en route. C'est très bien à partir du moment où tu as une policy qui est super fine-grained, je sais pas comment on dit en français, super tuné, quoi.
À grain fin. C'est-à-dire...
Comment tu dis ?
À grain fin. J'ai entendu les gens qui disaient à grain fin, une politique à grain fin. Une politique très détaillée à grain fin.
Ok. Bon.
Et donc, je ne suis pas convaincu.
Ouais, ce que tu es en train de dire ici, Nico, c'est que c'est pas la vraie vie, quoi. C'est en théorie, oui, mais... dans la vie des entreprises classiques, c'est rarement le cas, et c'est vrai. Je te rejoins.
Écrire une policy SE Linux, surtout pour une grosse appli compliquée, c'est loin d'être évident, et surtout SE Linux, si tu n'as jamais protégé contre une chose, c'est les exploits de kernel. Et je veux dire, en matière de Linux, je ne vais pas dire qu'il y en a tous les jours, mais il y en a quand même assez souvent. Et tu as des exploits fiables. Enfin, le dernier, là, c'est le truc, l'exploit de Futex, il marche très bien, quoi. Donc, à partir du moment où ton système te... Enfin, du coup, là, avec un exploit kernel, tu passes de n'importe quel utilisateur dans une chroot à tous les droits sur le système, d'un seul coup. Tu n'as pas d'étape intermédiaire.
Oups. Et juste un truc, sinon, c'est... franchement, je n'ai pas regardé ça, mais sinon, la possibilité, c'est de virer Bash. Enfin, des shells, il en existe plein, en fait. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'Apache, il est prévu pour en dur balancer tous ces trucs en bash quand il fait du CGI, mais il n'y a pas besoin forcément que ce soit du bash.
Non.
Peut-être du CSH. Non, on peut faire ça autrement, ouais.
En fait, tous les trucs utilisent BinSH. Et il y a un certain nombre de distros qui alias BinSH sur BinBash, mais je crois que c'est pas le cas de Debian par défaut. Par défaut, Debian et Ubuntu, il me semble qu'ils utilisent Dash, mais bon, ce sera confirmé, ça. Après, si tu t'intéresses au cas des entreprises, la seule question, c'est que fait Red Hat. Si Red Hat alias BinSH sur BinBash, tu peux être sûr que ça va chauffer.
Ok, messieurs, si on devait conclure.
Patch ton bash. Je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet.
Mais le patch est-il disponible? That is the question.
Ouais, et puis sinon, à plus long terme, enfin, confine. Mais bon, voilà. C'est mon mot de la fin.
Attention, parce que maintenant qu'il y a une faille dans Bash, tout le monde va se jeter dessus comme la vérole sur le bac clergé. Tu peux être sûr que des failles dans Bash, tu vas en avoir d'autres.
Ouais.
Et puis, je pense qu'à contrario, pour refaire un parallèle par rapport à Earthbleed, je pense que Earthbleed, il y a beaucoup de personnes en entreprise, les managers et compagnie, on va leur dire ouais, il y a une faille dans Bash, c'est critique. Dans quoi ? Ils vont encore moins capter de ce qui se retourne par rapport à une faille dans SSL, parce que SSL, tout le monde connaît quand même, hein, tellement on le voit un peu passer avec le fameux petit cadenas, monsieur et madame Michou est au courant, quoi.
Et Jeff, ils vont écouter le podcast et ils vont tout comprendre, hein ?
Bah ouais, c'est clair. C'est pour ça, nos limites sécu. Hein.
File le podcast à ton manager.
Ah, il comprend tout le mien.
Et s'il écoute jusqu'au bout, il est élu manager de l'année.
Ouais. Non, à mon avis, il a déjà lâché l'affaire depuis longtemps, quoi.
Mais alors, lâche l'affaire, mais lâche les sous, c'est ce qu'il faut. S'il te plaît, merci.
Bon, et bien, on espère que cet épisode vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à nous rajouter 5 étoiles dans iTunes parce que ça augmente notre popularité et ça permet en fait de pouvoir diffuser le podcast à une plus large audience.
Et ça nous fera plaisir aussi.
Oui, c'est surtout ça en fait.
Faites-nous plaisir.
Et ça nous encouragera à continuer parce que pour l'instant, on tourne qu'à la gnôle et à la reconnaissance.
D'ailleurs, j'ai plus de gnôle, je tiens à le dire.
Pour un breton.
Ouais, je descends, je shoot dans une poubelle et j'en trouve, pas de problème.
Bon, on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode.
Tchuss !
Salut !